Notre série Présence du passé, en partenariat avec le CHS, Centre d'histoire sociale des mondes contemporains, s'attache à tresser, à articuler tant de l'information journalistique et tant de la recherche universitaire, c'est-à-dire en fait complexifier la simplicité et clarifier le complexe. Et nous allons être servis avec le sujet abordé aujourd'hui, sunnisme et chiisme. Tout commence en 632. C'est la mort du prophète Muhammad, selon la prononciation restituée, Mahomet, comme on a longtemps dit dans la prononciation dite française. Quel successeur, calife, désigné ? Et là, tout commence. Des discordes, fitna en arabe, vont s'en suivre avec des haines inextinguibles, des retournements de tout à fait étonnants, des coups de théâtre et des alliances au sein même de l'entourage du prophète puis de sa descendance. Pour les uns, les futurs chiites, le calife doit être le cousin et gendre de Mohammed Mahomet, présenté comme son fils spirituel, Ali. Pour les autres, les futurs sunnites, ce ne peut être que le meilleur d'entre nous, le meilleur des compagnons du défunt prophète, Abou Bakr. Celui-ci est désigné, il devient premier calife. Deux autres suivront, mais en 656, 24 ans après la mort du prophète, le troisième calife est assassiné et Ali, le recalé de 632, prend sa revanche. Il est désigné quatrième calife. Cependant, un proche du troisième calife assassiné, Muawiya, ne l'entend pas de cette oreille. Il conteste Ali, qui finit lui aussi assassiné en 661 à Koufa, dans l'actuel Irak, où il est enterré, certainement à Najaf. Mais ce n'est pas fini, Alain Decaux doit continuer à raconter. Muawiya se fait proclamer cinquième calife, il fonde le califat Omeyyade qui prend Damas pour capitale, et son fils, à sa mort, son fils Yazid lui succède en 680. Et Yazid affronte, cette même année 680, le fils cadet d'Ali, Hussein, à la bataille de Karbala, dans l'Irak actuel. Hussein, fils d'Ali, est tué. Autour du martyr Hussein, c'est la déroute fondatrice des chiites. Le mot signifie « partisan » en arabe. Et selon le point de vue opposé sunnite, c'est le retour à la norme, à la tradition musulmane, sunna en arabe. Alors aujourd'hui, les sunnites constituent à peu près entre 85 et 90% des musulmans dans le monde. Les chiites, farouches vaincus, se concentrent en Mésopotamie, puis à partir de 1501 en Perse, c'est-à-dire Mésopotamie, Perse, Irak et Iran actuels. Alors, il va nous falloir peut-être revenir sur cette trame rapidement brossée, sur cette cinquantaine d'années du 7e siècle, puisque ce sont des moments fondateurs. Il va nous falloir ensuite nous interroger. De quelle discorde parlons-nous ? Ces discordes, cette fitna vieille de presque 1400 ans, constitue-t-elle une grille d'analyse permettant d'interpréter les événements et les conflits contemporains, le plus souvent considérés par les journalistes et les commentateurs attentés à travers le prisme religieux et confessionnel de Beyrouth à Dubaï, de Téhéran à Sanaa ? Nous allons donc réintroduire du politique, de l'économique et du social en sus de confessionnalisme et même du fait religieux. Et ce, avec nos deux invités, Sabrina Mervin, directrice de recherche au CNRS, et Stéphane Lacroix, chercheur aux séries de Sciences Po. Entre 632 et 680, mort du prophète et bataille de Karbala, dans quelle mesure des enjeux politiques, économiques et sociaux se mêlait-il déjà à la question religieuse dans un entrelacement subtil et complexe, Sabrina Mervin ?
En fait, c'est une question effectivement qui elle-même est complexe. C'est-à-dire, il faut bien voir que quand on parle de religieux, ce n'est jamais que du religieux. Et en fait, même le religieux dont on parle quand on parle de la succession, ce n'est pas que du religieux. Par exemple, vous avez parlé de la succession du prophète, qui est effectivement le fondement de la première discorde. La succession du prophète, c'est une question politique aussi, et surtout politique. À ce moment-là, on ne parle pas de doctrine. Il n'est pas question de doctrine. Il est question de savoir qui va lui succéder. Après, évidemment, il a été, disons, élaboré des doctrines concernant la qualité, le statut de celui qui est habilité à succéder au prophète. Mais au moment où les choses se passent, c'est surtout un problème de succession qui est un problème politique.
Revenons sur 632, qu'est-ce que c'est risque de créer un télescopage sémantique? C'est un conclave tribal?
Oui, en quelque sorte, avec du côté des chiites l'impression d'avoir été complètement laissé pour compte. Et, notamment,
donc du côté d'Ali?
Voilà, c'est ça, du côté d'Ali. C'est-à-dire Ali n'a pas participé parce qu'il s'occupait, lui, il était au chevet du prophète. Et avec son épouse Fatima, donc la fille du prophète. Et c'est pour ça qu'il n'a pas participé à tout ça et que finalement il a été évincé. En fait, il s'agissait de voir qui était le plus proche du prophète. Donc, effectivement, Ali étant son cousin, et puis son gendre, donc celui qui a épousé sa fille Fatima, donc celui qui va assurer la descendance, et c'est ça qui est important du côté chiite, c'était pour les chiites, c'était ses partisans, c'était lui qui devait succéder au prophète, légitimement. Ensuite, pour les autres, le conclave, comme vous avez dit, c'est une manière effectivement de décider qui est le chef. Et on a qu'on peut appeler un droit du sang, et effectivement ce qui s'appelait à l'époque une shura, c'est-à-dire une consultation. Mmh. Voilà. Ce qui sert aujourd'hui à parler de démocratie. Voilà, on a la shura à la base, qui est la consultation des compagnons du prophète, donc de ses proches. Et il ne faut pas oublier que ses proches, notamment Abou Bakr et d'autres, étaient très très liés au prophète aussi. Hein, on est dans un même clan et on est dans des relations d'intermariage.
Stéphane Lacroix, vous vouliez peut-être rajouter quelque chose sur les aspects politiques, économiques, mais je voudrais que vous puissiez, pour que nous avancions ensuite, aller vers le moment où tout cela s'articule avec des traditions tribales dont nous venons de parler, tout ça s'articule aussi avec la constitution d'État, et comment tout ça se fait en tuiles où les traditions tribales demeurent dans des États constitués.
Oui, alors peut-être la première chose à dire aussi, et ajouter à ce qu'a dit Sabrina Mervin, c'est qu'il y a aussi des logiques de clans à la Mecque. Et on a un clan qui est particulièrement puissant, qui est le clan des Banu Omeyya, c'est-à-dire le clan de ce qu'on appellera par la suite les Omeyyades, en fait, qui existe avant l'islam, et auquel appartient le troisième calife, et auquel appartient ensuite donc Mouawiya, qui va renverser Ali en 661. Et donc on a aussi des logiques politiques entre ces clans, parce que finalement ce qui se joue aussi derrière les personnages qui se rassemblent pour décider de la succession du prophète, c'est aussi un rapport de pouvoir entre clans à la Mecque même, et la prise de pouvoir des Banu Omeyya à partir de Osman, le troisième calife, et de manière définitive, en tout cas pour une centaine d'années, à partir de 661, c'est aussi le retour au pouvoir d'un des principaux clans, sinon le principal clan de la Mecque avant l'islam, qui s'est converti à l'islam, d'ailleurs, et on a reproché un certain nombre des leaders de ce clan de s'être convertis tardivement, hein, et ce sont eux qui finalement, on a un retour d'une certaine manière à la répartition du pouvoir qui existait avant l'islam, avec le retour au pouvoir des clans des Banu Omeyya, mais cette fois-ci musulmans.
Et ça s'accompagne d'une sorte de basculement géographique, puisque nous passons de l'Arabie actuelle, saoudite, à la Syrie actuelle.
Oui, alors c'est parce que chacun a ses bases de pouvoir. Et il se trouve qu'en effet, Ali était particulièrement populaire en Irak, et Mouawiya était gouverneur de Syrie. Et donc, sa base de soutien populaire était en Syrie. Et dès lors qu'il prend le pouvoir en 661, effectivement, il va déplacer la capitale vers la Syrie. Considérant que la Mecque aussi est plus ou moins acquise, ou en tout cas pas suffisamment loyale. Donc on a un déplacement du pouvoir vers la Syrie, parce que Mouawiyah était gouverneur de Syrie. Je parlais de la Syrie et de l'Irak, parce qu'ensuite, en 750, la dynastie suivante déplacera le califat à Bagdad. Pour cette même raison qu'elle va justement chercher à s'appuyer sur la famille du prophète et sur ses liens avec la famille du prophète, hein, les Abbassides qui prennent le pouvoir en 750. Et eux considèrent justement, il y a cet attachement à la famille du prophète est plus fort en Irak, et donc ils vont déplacer le pouvoir vers l'Irak. Donc effectivement, on va voir le califat se déplacer au gré de ces rapports de pouvoir, et en particulier de la base sociale de chacune des dynasties.
Donc il y a une sorte d'instrumentalisation réciproque du politique et du religieux. Maintenant, par rapport tout de même à cette question religieuse, quelles sont les différences doctrinales entre le chiisme et le sunnisme ? J'ai l'impression que ça ne touche pas tant à la religion elle-même, enfin, qu'à ses incarnations, peut-être, notamment le clergé, non ?
Oui, alors en fait, vous savez, on parle toujours de différence, de divergence doctrinale quand on aborde cette question. Et je crois que la première chose à dire, c'est qu'il y a aussi des points communs, une base commune extrêmement importante.
Bien sûr.
Voilà, donc la prophétie, évidemment la croyance en un Dieu unique, et c'est vraiment le concept cardinal de l'islam, et puis le Coran. Et le Coran, c'est le même livre pour tout le monde. Voilà. Donc ça, déjà, c'est quand même énorme. Après, les différences doctrinales, elles se sont élaborées. Il n'y avait pas de différence doctrinale si forte en 632, évidemment. Les doctrines, elles se sont élaborées, notamment pendant les trois premiers siècles, on va dire. Et c'est à ce moment-là que sont apparus des courants, distribués en fonction des batailles et des luttes de clans. Voilà, et tout ça, c'est imbriqué. Et puis, vous avez eu raison tout à l'heure, vous avez parlé d'économie. Effectivement, l'économie, ça compte. Et le social, si on peut dire aussi, par exemple, ce qui avait été reproché à Haussmann, c'était de mal gérer ou de s'approprier les richesses de la communauté. Vous voyez, donc tout ça est complètement imbriqué. Voilà. Alors, pour revenir aux différences doctrinales, si on veut schématiser les différences doctrinales entre sunnites et chiites, disons que la première, c'est effectivement l'autorité, c'est-à-dire qui détient l'autorité religieuse et politique. Donc, pour les sunnites, c'est donc un calife, et puis pour les chiites, c'est l'imam. Et la grande différence, c'est que l'imama, donc chez les chiites, est un point de dogme, contrairement au califat, qui ne l'est pas. L'imama fait partie du dogme, dans la mesure où c'est l'imam qui doit être le chef de la communauté, donc le premier Ali, et ensuite ses descendants. Ses descendants par Fatima, hein, parce qu'il a eu d'autres épouses.
Comment ça se passe entre sunnites et chiites ? Le calife rassemble à la fois le pouvoir politique et le pouvoir religieux, alors que l'imam rassemble un pouvoir religieux si important que le pouvoir politique doit s'y plier ?
Non, c'est, en fait, c'est la même chose.
C'est la même chose. L'imam égale le calife.
Oui.
Alors, oui et non.
Oui et non. Oui et non, mais en tout cas, le fait que l'imam ou le calife soient les détenteurs du pouvoir politique et du pouvoir religieux, effectivement, ça c'est la même chose, on va dire.
Mais peut-être on pourrait quand même dire qu'il y a une différence entre les deux, c'est que l'imam a une inspiration divine. C'est-à-dire que l'imam a accès au sens caché du Coran, alors que le calife n'a pas du tout cette prétention. Le calife est un dirigeant temporel et donc il n'est pas de droit divin entre guillemets, enfin je veux dire il est là parce que la communauté doit avoir un chef et la communauté doit se choisir un chef. Après ensuite il y aura des dynasties qui vont remettre ça en cause et finalement ça va s'hériter, mais il n'a pas de prétention a un accès direct à Dieu, le calife. Alors que l'imam, dans ce cas-là, oui, est vu comme une figure dont les pouvoirs vont bien au-delà de ceux du calife.
Et ça, c'est très important parce que ça pose la question herméneutique, c'est-à-dire jusqu'où on interprète le Coran. Et j'ai l'impression que du côté chiite, il y a un effort herméneutique plus important que chez les sunnites, dans la mesure où on a ce lien direct avec... les deux croient, je pense, en le Coran incréé, venu du souffle de Dieu. Bon, ça, ils ne se posent pas de questions là-dessus. Mais est-ce que vous pourriez montrer la petite différence ?
Alors, comme le disait Stéphane, l'imam reçoit à une inspiration divine, d'une part, et ensuite il est divinement désigné. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de choix, il n'y a pas d'élection de la part des hommes. C'est Dieu qui décide. Voilà. Parmi, bien sûr, les descendants donc du prophète par Ali. Bon, après, il y a d'autres doctrines qui se sont élaborées dans d'autres branches du chiisme que le chiisme duodécimain dont on parle en général parce qu'il est majoritaire. Hein, chez les Ismaéliens ou chez les Haïdites, ça va être différent. Voilà. Mais disons que, de toute façon, pour tout le monde, l'imam est divinement désigné. Voilà, donc ça change les choses. Ensuite, l'imam est le seul habilité à dire la loi divine, le seul qui peut la comprendre, parce qu'il est le seul à comprendre le Coran. Et en fait, il va compléter, l'imama va compléter la prophétie, donc il va poursuivre en quelque sorte la révélation de Mohammed en explicitant aux hommes le texte sacré. Donc, effectivement, ça a donné un usage, une manière de une vision du Coran et une manière de traiter le Coran qui est très portée sur l'exégèse et sur l'interprétation.
Quand on parle de cette figure du calife tout à l'heure, je pense que c'est très important. C'est une figure séculière. Le pouvoir religieux en islam sunnite se construit contre le calife. Et on a dans le sunnisme une forme de sécularisation, très tôt en vérité, parce que le calife est petit à petit ramené à sa qualité de figure politique. Et face à lui, le corps des oulémas, c'est-à-dire le corps des docteurs de la loi, passent leur temps à théoriser toute la doctrine en disant au calife, en gros, ça n'est pas toi qui as l'inspiration divine, tu n'es pas au-dessus de la loi. La loi, elle est dans les textes, et nous sommes les seules habilités à interpréter les textes. Donc, on a dans le sunnisme d'emblée, en fait, une forme de division entre ceux qui se réclament du religieux et qui disent la loi, et qui rappellent au calife que lui-même est censé s'y soumettre. Donc, on a dans cet islam sunnite, effectivement, une dynamique un peu différente, qu'on ne retrouve pas chez les chiites de l'imama, qu'on va retrouver probablement ensuite, un peu différemment, après l'occultation de l'imam, et donc le passage au chiisme post-occultation. Mais chez les sunnites, c'est quelque chose qui se fait très tôt, cette séparation, finalement, d'une sphère politique et d'une sphère religieuse. Et encore, c'est quelque chose que je tiens à dire parce que c'est contre-intuitif. On entend, hélas, trop souvent cette idée que, en islam, le religieux et le politique sont liés, c'est pas pareil dans le christianisme et que donc ça expliquerait pourquoi les musulmans ne séparent pas le politique et le religieux. En fait, effectivement, dans la doctrine, c'est plus compliqué. Hein, le politique et le religieux sont intimement liés. Mais dans les pratiques du califat, on a bien deux corps qui appartiennent à deux sphères différentes et des sphères qui vont être en conflit. Les choses se déclinent un peu effectivement différemment dans le chiisme, mais je vais laisser Sabrina Merva en dire un mot et surtout parler aussi de ce qui se passe sous l'empire safavide, parce que c'est plutôt son domaine.
Oui, en fait, tout change à partir du moment où on n'a plus les quatre premiers califes, c'est-à-dire les califes dits bien dirigés. Après, on passe en fait à une royauté, hein, tout simplement. Alors pour le chiisme, c'est un peu différent parce que disons que les chiites n'avaient pas le pouvoir depuis le martyr de Hussein en 680 à Karbala. Les chiites n'ont pas le pouvoir. Ils ont été proches du pouvoir sous les bouillides, mais bon, en gros, ils n'avaient pas le pouvoir. Et les sunnites étaient majoritaires. Donc, ils avaient des imams, mais ces imams étaient, selon la tradition chiite, étaient persécutés, ont été soit assassinés, soit empoisonné. Et donc, à partir du Xe siècle, on a considéré que le XIIe imam, pour fuir les persécutions, avait été occulté, donc par Dieu. Donc, selon la doctrine, cet imam, il vit toujours, mais il est caché, et il va réapparaître avant la fin des temps pour établir la justice sur terre. C'est-à-dire que l'autorité sacrée, elle n'est plus sur terre. En tout cas, on n'a plus accès à elle. Et donc, on attend qu'elle réapparaisse. Voilà, donc c'est un messianisme, un millénarisme, un messianisme.
Eschatologie.
Voilà. Mm-hmm. Voilà. Donc, ce qui permet, tout simplement, de s'accommoder des pouvoirs en place ou pas. Voilà. Mm-hmm. Et c'est ce qui s'est passé. Les chiites étaient minoritaires, donc très souvent, la plupart du temps, ils se sont accommodés avec les pouvoirs en place. Et puis, quand ils ont eu le pouvoir, bah, ils en ont profité, ils ont développé leur doctrine, ils ont développé leurs rituels qu'ils ont observés de manière publique, et puis sinon, ils rentraient dans les maisons et ils étaient des sujets comme les autres.
Maintenant, je voudrais qu'on puisse faire un saut 1500. Hein.
Oui.
C'est la création d'un pouvoir chiite en Perse. Et là, nous sommes... dans une sorte d'exemple chimiquement pur de politique instrumentalisant la religion, n'est-ce pas ?
Oui, absolument, absolument. D'autant que
Est-ce que vous pourriez juste rappeler
La dynastie safavide, effectivement, ce sont des gens qui se convertissent au chiisme, qui probablement viennent d'un sunnisme un peu mystique, hein, plutôt soufi, et qui vont faire le choix de se convertir au chiisme. Alors, ce qu'on dit beaucoup, ce que les historiens disent, c'est qu'ils le font aussi parce qu'ils sont en rivalité avec l'Empire ottoman qui incarne le sunnisme, et donc ils vont se convertir au chiisme, précisément parce qu'ils ont besoin d'une ressource de légitimité religieuse qui les distingue de l'Empire ottoman. Et donc ça va être la raison de cette conversion au chiisme. Et à partir de là, effectivement, ils vont convertir les territoires de l'Iran massivement pendant tout le XVIe siècle.
Ce que vous disiez sur... Et c'est très important sur cette espèce de conflit, d'équilibre à trouver entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. Le démocrate plein de préjugés de sens commun aurait plutôt tendance à choisir le sunnisme aujourd'hui en plaquant. J'imagine que vous avez quelques petites nuances à apporter à ces gros sabots.
Oui. Disons que, évidemment, le calife est malgré tout une figure qui incarne l'autorité religieuse, etc. Mais là encore, ce n'est pas lui qui définit la loi. C'est ça que je veux dire. C'est que la loi, elle se définit à côté, par les oulémas. Donc, dans le sunnisme, ça me semble quelque chose d'extrêmement important. C'est un rapport de force entre le politique et le religieux, selon les moments. La relation va fluctuer, il y aura des tensions. Par ailleurs... souvent, en fait, le calife, et ça va être d'autant plus le cas à mesure que l'histoire avance, le calife va gouverner en considérant que sa prérogative est au-dessus de celle des oulémas. Et donc, finalement, les oulémas sunnites vont se retrouver souvent en porte-à-faux avec les décisions du calife. Mais ils vont développer toute une théorie qui consiste à dire qu'il vaut mieux un pouvoir que pas de pouvoir du tout. Et donc même si le calife est imparfait, même s'il ne fait pas ce que l'islam dit qu'il doit faire, ou ce que nous, ouléma, lui disons de faire, ou lui disons que l'islam lui ordonne de faire, eh bien on doit s'accommoder de lui et on ne doit pas appeler à la rébellion. Donc dans le sunnisme, il y a cette doctrine de l'ordre, hein, le sunnisme est très attaché, c'est la religion du pouvoir, le sunnisme. C'est ça qu'il faut voir aussi, hein, c'est qu'a posteriori, le sunnisme, finalement, pour le définir très simplement, hein, c'est la doctrine qui valide tous les califats tels qu'ils ont existé depuis le début. C'est-à-dire que pour les sunnites, tous les califats tels qu'ils ont existé sont... justes. En tout cas, ils sont inclus dans la doctrine, et les choses ont été telles qu'elles auraient dû être. Donc, pour eux, et l'ordre, c'est ce qu'il y a de plus important. Il faut conserver l'ordre, il ne faut pas mettre en danger le pouvoir califal, même si on est en désaccord avec lui, parce qu'il n'est pas suffisamment en accord avec la charia, c'est-à-dire cette loi abstraite, hein, avec un grand L plutôt qu'un petit L, que doit incarner l'islam et le Coran, et le hadith, parce que bon, il y a d'autres sources de cette loi que le Coran, eh bien, on doit quand même s'accommoder de lui. Donc les oulémas sunnites, tout au long de leur histoire, vont être finalement, alors même qu'ils sont parfois sur la doctrine ou sur des points d'interprétation ou d'application en désaccord avec le calife, ils vont généralement le soutenir.
Oui, mais tout à l'heure, en me faisant la voie du sens commun, c'était pour, je pensais, à ce que dénonce, il est un des seuls à le faire aux États-Unis d'Amérique, un homme qui est à cheval sur plusieurs cultures, qui est Robert Malley, qui était le conseiller à la fois de Clinton et d'Obama, et qui dit, mais c'est absurde et idiot de fonder la politique de Washington sur l'alliance avec des États arabes sunnites modérés.
Le problème des Américains avec l'Iran essentiellement, plutôt qu'avec les chiites d'ailleurs, c'est parce que l'Iran est anti-impérialiste. C'est-à-dire l'Iran, en 79, prend en otage les diplomates américains dans l'ambassade, avec une rhétorique très anti-impérialiste, on est en contexte de guerre froide par ailleurs. Et il faut se souvenir qu'au début, en fait, les Américains ne savent pas dans quel camp l'Iran va pencher dans la guerre froide. Et la grande peur à Washington, c'est que l'Iran devienne un allié de l'Union soviétique. En fait, l'Iran va choisir une troisième voie, ni Est, ni Ouest, et donc va chercher à incarner une sorte de troisième pôle dans la guerre froide, mais par ailleurs en conservant cette rhétorique anti-impérialiste. Et donc, l'Iran va immédiatement être vu, et d'ailleurs va se proclamer comme tel, comme une menace pour les intérêts américains dans la région. Ça n'a pas été le cas de l'Union soviétique et l'Égypte, un petit peu sous Nasser, mais même Nasser en fait était proche des Américains au début, il a toujours gardé des relations et puis à partir de Sadat il va redevenir proche des Américains. Donc c'est de la politique en fait, je veux dire, c'est pas que les Américains se sont dit sunnites, chiites, qui est-ce qu'on préfère ? Ils se sont dit quels États s'opposent à nos intérêts et donc sont un danger pour notre présence.
Et en 2003, ils offrent sur un plateau l'Irak aux chiites.
Oui, mais ils le font pas parce que ce sont des chiites. D'ailleurs, ça montre bien que alors même qu'ils détestent l'Iran, ils renversent Saddam Hussein, ce qui ouvre effectivement la voie à une prise de pouvoir des chiites. Donc je crois pas qu'ils pensent en termes de sunnites et chiites. 2003, on est dans un contexte où les néoconservateurs américains ont expliqué que la démocratisation par la force du Moyen-Orient permettrait de pacifier la région et de permettre que les États arabes démocratiques et pacifiés établissent de bonnes relations avec Israël. Voilà les idées qui naissent dans les cercles néoconservateurs américains et qui justifient pour toute une partie de ces gens la guerre en Irak, au-delà des intérêts pétroliers, etc., qui existent par ailleurs dans le même temps. Donc l'invasion de l'Irak en 2003, elle n'est pas destinée à renverser des sunnites pour mettre des chiites à la place. Elle est destinée à, dans cette espèce de vision un peu folle des néoconservateurs, à dire, voilà, on va ramener la démocratie sur des chars et l'Irak démocratique sera le meilleur allié d'Israël. Parce que c'est ça qu'à Washington, tous les gens qui sont autour de Bush expliquent à l'époque. Donc évidemment, tout ça, rétrospectivement, paraît complètement absurde, mais il faut se souvenir que beaucoup de gens y croyaient.
Et est-ce qu'on peut dire que les sunnites sous la coupe des chiites en Irak deviennent, par une sorte de dépit politique, les alliés de Daesh et du futur califat.
Mais là encore, je crois que la première chose à dire, et je crois que Sabrina Mervin, j'espère, sera d'accord avec moi, mais ces différences doctrinales et confessionnelles, elles existent. Mais elles n'ont des effets politiques que quand elles sont mobilisées politiquement. Exactement. Par des entrepreneurs politiques qui ont un intérêt à les mobiliser. Donc, ce qui s'est passé beaucoup au XXe siècle, c'est que à partir du moment où vous avez la chute de l'Empire ottoman, qui maintenait l'ordre, en fait...
Parce que ça, c'est 1924.
Ouais, alors, 1924, c'est l'abolition du califat. Et la chute, c'est la fin de la Première Guerre mondiale. Hein. Oui. Donc, l'Empire ottoman, qui représentait donc, le dernier califat, maintenait l'ordre dans son territoire, dans un territoire qui était multiconfessionnel, multiethnique, où finalement, malgré des moments de tension, les choses se passaient pas si mal, entre guillemets. Je veux dire d'ailleurs, toute cette mosaïque extraordinaire qu'est le Proche-Orient en particulier, c'est aussi parce que ces logiques d'empire, pendant très longtemps, ont permis le maintien de cette pluralité. Hein. On peut pas en dire autant en Europe, où il y a quand même, on a eu des guerres de religion autrement plus violentes que celles qui ont existé dans le Moyen-Orient avant le XXe siècle, hein, où l'Empire ottoman maintenait l'ordre, un ordre d'empire là encore, hein, mais donc on est dans un référent prémoderne. L'idée n'est pas de faire de l'anachronisme en disant c'était mieux, c'était moins bien, mais en tout cas, tous ces gens arrivaient à coexister ensemble. Au moment où l'Empire ottoman s'effondre, on arrive dans la création de ces États modernes, et des États qui, pour certains politiquement, vont chercher à mobiliser la ressource confessionnelle et religieuse. Et donc, que ce soit l'Irak de Saddam Hussein qui va mobiliser la ressource sunnite pour se construire une base de pouvoir, ostracisant les chiites, qui du coup prennent leur revanche après 2003, que ce soit la Syrie de Bachar al-Assad, qui va mobiliser, alors lui il est alaouite, on n'a pas parlé des Alaouites, mais on pourrait encore en rajouter, qui appartiennent de loin à la famille chiite, mais avec là aussi des vraies divergences, qui vont être mobilisés politiquement par Hafez al-Assad, le père de Bachar, pour là encore se construire une base de soutien politique, ce qui explique évidemment au moment où que Bachar al-Assad, son fils, est contesté, on va revoir naître en fait ces haines confessionnelles, mais des haines confessionnelles qui remontent en fait au lien que ces États modernes ont noué avec ces identités confessionnelles. Le Liban, c'est encore plus compliqué, parce que là, on est un État qui s'est construit sur l'équilibre factice, entre guillemets, entre toutes ces identités confessionnelles. Donc c'est une problématique du XXe siècle aussi. Et là, il faut bien distinguer la problématique telle qu'elle se manifeste au XXe siècle et la problématique telle qu'elle existe avant.
Et entre-temps, il y a eu tout de même des tentatives de rapprochement.
Absolument.
Et j'aimerais que vous en parliez.
Absolument.
Entre sunnites et chiites.
Oui, alors disons que ça commence surtout à partir de la fin du XIXe siècle, et justement, à la base, ce sont des tentatives qui viennent de l'Empire ottoman, hein, qui viennent du sultan Abdulhamid II. Et pourquoi ? Pour renforcer l'islam, c'est-à-dire l'Empire, face à l'Europe qui est envahissante. Pour renforcer à la fois son pouvoir et puis aussi pour pouvoir mobiliser les chiites militairement. Par exemple, au moment du jihad contre les Britanniques en 1914, les chiites se sont ralliés au sultan ottoman et ils ont combattu, et avec même des oulémas, hein, pour défendre le sultan ottoman face aux Britanniques.
Et vous parliez des Britanniques au XXe siècle, dans la deuxième moitié du XXe siècle. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une cause commune entre chiites et sunnites, qui était la cause palestinienne ?
Oui, aussi. Alors, la première cause commune, pour y revenir, donc, c'est contre la présence européenne, à la fois économique, politique, militaire, et la volonté de puissance. Particulièrement au Moyen-Orient, au Proche-Orient, mais aussi ailleurs. Donc à ce moment-là, les oulémas ont participé à ces initiatives de rapprochement en travaillant sur les doctrines et en émettant des fatwas où ils énoncent que les chiites et les sunnites sont frères, sont arabes, pour certaines fatwas, sont arabes et frères et musulmans.
D'autant que la colonisation jouait sur ces divergences confessionnelles.
Jusqu'au tracé des frontières.
Et à l'intérieur même des États, soutenait une minorité contre une autre. La politique coloniale a quand même consisté, je parlais des entrepreneurs politiques qui utilisent ces identités pour des raisons de pouvoir.
Le diviser pour régner.
C'est les colonisateurs qui ont commencé. Et puis les États arabes modernes ont été héritiers un peu de cette politique et ont repris ce jeu de... Mais je parlais de la Syrie et de l'Irak, je vais reprendre les deux exemples justement. La Syrie, les Français sont arrivés en Syrie et ont joué la division des minorités. Et en particulier si les Alaouites syriens, qui sont 10% de la population, ont acquis autant de pouvoir en Syrie, au point que l'un d'entre eux emporte le pouvoir après, dans les années 60, Hafez al-Assad, c'est parce que les Alaouites ont fait l'objet d'une politique coloniale en leur faveur, qui leur a permis en particulier d'être recrutés massivement dans l'armée. En Irak, c'était la même chose avec les Britanniques, qui eux privilégiaient les sunnites, parce que les chiites s'étaient révoltés en 1920, c'est ce à quoi Sabrina Mervin faisait référence. Et donc les Britanniques étaient traumatisés par cette révolte chiite de 1920. Les sunnites étaient vus comme plus loyaux, plus proches des intérêts. Mais ça dépendait beaucoup des pays, selon les minorités. Et donc évidemment, les puissances coloniales, en favorisant une minorité contre une autre, en cherchant à coopter certains groupes contre d'autres, ont nourri ces divisions. Donc là encore, il faut bien voir toute l'ingénierie politique, qu'elle soit celle de la puissance coloniale ou celle ensuite des États autoritaires qui vont se construire sur les décombres de la puissance coloniale, voire toute l'ingénierie politique qu'il y a dans cette montée des confessionnalismes. Là encore, sortir de l'idée, mais je crois que c'est un peu le but de cette émission, que sunnites et chiites, c'est la haine depuis 14 siècles, et finalement, ça n'est que la continuité d'une haine ancienne. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a des différences doctrinales réelles, mais il y a aussi des apprentis sorciers au XXe siècle, des apprentis sorciers du côté des
puissance coloniale et des apprentis sorciers ensuite qui vont prendre le pouvoir dans les différents pays, qui vont nourrir ces haines. Si aujourd'hui on arrive à cette explosion des haines, dans un certain nombre de pays en tout cas, elles se sont manifestées comme telles, c'est aussi parce qu'il y a tout ça. C'est pas quelque chose qui est simplement la reproduction à l'identique de conflits millénaires.
Cette émission se conclut, je pense qu'on peut aller un peu plus loin, ou bien vers une déconfessionnalisation graduelle qui aboutirait à une résorption de la question, ou bien d'autres hypothèses peut-être qui viendraient de vos lumières pour conclure l'émission. À nouveau, une possibilité de rapprochement en ayant fait fi de toutes les bombes à retardement du colonialisme et des dictateurs ayant suivi.
On peut toujours rêver, mais en même temps, ce ne sont pas nos lumières qui font la politique. Et je crois qu'il faut rester simplement pragmatique et regarder ce qui se passe aujourd'hui. Mais on a des signes. Vous voyez, par exemple, ce qui se passe en Afghanistan, l'accord entre les talibans, donc des Hobandis sunnites, et l'Iran, puisqu'il y a eu accord.
Oui, bien sûr.
Voilà. Alors que les Hazaras, c'est-à-dire la minorité chiite en Afghanistan, a été persécutée par les talibans auparavant. On se souvient de la destruction des bouddhas de Bamiyan en 2001. En fait, c'était des bouddhas qui étaient dans une région chiite.
Oui, mais, voilà. mais Téhéran a un drôle de jeu. Il soutient l'Arménie contre l'Azerbaïdjan, qui est pourtant chiite. Enfin, tout ça est d'une complexité qui fait qu'il peut y avoir accord. Mais...
Absolument. Donc, en fait, je crois que ce qu'il faut regarder, ce qu'il faut suivre, c'est effectivement la manière dont les États aujourd'hui choisissent de faire de la politique. Effectivement, est-ce qu'ils instrumentalisent ou pas le religieux ? En fait, je crois que lorsqu'ils l'instrumentalisent, c'est surtout pour fabriquer des slogans et permettre en fait la mobilisation du peuple et des combattants.
La source du problème, l'origine du problème, c'est l'autoritarisme aujourd'hui et la manière dont il a instrumentalisé ses identités. Et ce qui s'est passé en 2011 était extrêmement prometteur. C'est-à-dire qu'en fait, cette idée de reconstruire la citoyenneté par le bas, c'est-à-dire une citoyenneté qui serait celle de ses citoyens, et plus simplement un référent imposé d'en haut par des États autoritaires qui le répartissent selon leurs intérêts, en jouant les uns contre les autres, et donc en prolongeant, se faisant la politique coloniale, c'est ça qui était la solution. C'est-à-dire que une Syrie, justement, déconfessionnalisée, ça ne peut être qu'une Syrie démocratique. C'est-à-dire une Syrie, justement, où ça n'est plus Bachar el-Assad qui appartient à une minorité et qui s'appuie sur sa minorité pour gouverner, donc excluant par là même les autres minorités, qui donc se sentent marginalisées, qui donc sont plus susceptibles de prendre les armes, etc. Tant que ce genre de choses perdurent, on n'a pas de solution. Et tant qu'on a des pouvoirs autoritaires, évidemment, ils feront usage de ça, parce que d'abord ce sont des pouvoirs autoritaires, ils n'ont qu'une ambition, c'est la survie politique, et donc ils utiliseront tout ce qu'ils ont à leur disposition pour survivre politiquement, et puis ils n'ont rien qui les empêche de faire ça. Donc, si on reconstruit, c'est ce que les révolutionnaires de 2011 voulaient faire, les sociétés par le bas sur une base citoyenne, par-delà les identités confessionnelles. On l'a vu, pensez à la révolution libanaise d'il y a 2 ans, qui s'est hélas terminée avec le Covid et puis l'effondrement économique. Mais la révolution d'il y a 2 ans au Liban, c'est ça. C'est dans la suite des printemps arabes, des gens de toute confession qui sont dans les rues du Liban et qui eux-mêmes sont étonnés de dire « moi je suis chrétien à côté, j'ai un sunnite, et lui est chiite, et c'est tellement bien qu'on soit là tous ensemble contre cette élite politique pourrie qui nous vole depuis des décennies. » Et ça, c'était le message des printemps arabes, c'était aussi ça. C'est pour ça que ceux qui vous disent que là encore, et vraiment je vais terminer ça, parce que c'est un truc qui me tient à cœur, qui vous disent que là encore, Bachar el-Assad, c'est la garantie de la protection des minorités en Syrie, etc. Enfin, c'est une folie. C'est ne rien connaître à toute cette histoire.
On a bien compris, donc, il faut reprendre les printemps arabes, là où ils ont été sciés à la base, quant à l'instrumentalisation du religieux par le politique, eh bien, il faut espérer que ça leur passe avant que ça nous reprenne. Merci beaucoup et à plus tard pour un nouveau numéro de Présence du passé avec la collaboration du CHS et de sa cheville intellectuelle, Françoise Blum. Merci.